Il est à présent l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, on va pouvoir écouter Stanislas, qui est un des 6 cofondateurs de la maison d'édition, l'association. Il vient de publier chez ce même éditeur La fin du monde, un recueil de 10 histoires en noir et blanc et en couleur. Qui sont reliées entre elles avec une écriture dessinée, héritée des classiques, où l'efficacité maximale est associée à une économie de moyens. Nous sommes avec Stanislas aux alentours de 14h15 pour qu'il nous emmène dans cette fin du monde. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Une petite précision, j'en parle pas souvent, mais à propos des livres numériques et notamment de la bande dessinée numérique. Alors, pour présenter ces émissions et ces livres, de temps en temps, je reçois des livres en PDF que je regarde sur mon ordinateur. Et la dernière fois, c'est notamment pour le livre de Louise Laborie, Rock'n'Roll Suicide. Et je ne m'étais pas vraiment méfié, en tout cas, je ne l'avais pas précisé. Mais quand on lit un PDF, il y a souvent, puisque la lumière est à l'arrière de la page, une façon plutôt dynamique, contrastée, qui valorise souvent le livre, puisque l'impression papier est un peu plus difficile pour avoir le même rendu. Et la mise en couleur de Louise Laborie, on en a parlé avec elle, est importante et même un travail de fond. Il y a une narration complètement associée à cette mise en couleur. Et donc, ça me paraissait assez normal, c'est rouge, qu'il y a de façon organisée, intense, tout au long de son récit. Et avec le livre lui-même, version papier entre les mains, eh bien, il y a un travail qui a été fait sur ces rouges pour qu'ils aient aussi une très grande intensité qui méritait d'être soulignée. Et le PDF peut être séduisant, mais la version papier a aussi de très beaux jours devant elle. Elle n'est en rien menacée. Comme voudraient l'imaginer certains éditeurs, là, on a vraiment un rendu d'une grande précision du travail de coloriste, notamment de Louise Laborie pour Rock'n'Roll Suicide, publié par les éditions Sarbacane et dont le prix est de 26 euros et un livre imprimé en France. Virgule. Autre brève importante, celle de l'annonce d'Anouk Ricard qui boycottera purement et simplement la prochaine édition du Festival d'Angoulême, alors qu'elle est l'invitée d'honneur, elle a été donc primée pour l'ensemble de son œuvre par ses pairs, et donc elle a une grande exposition pour l'édition d'Angoulême en janvier 2026. Et elle dit, c'est un choix personnel, réfléchi, en accord avec mes convictions, et un soutien aux voix qui demandent un changement nécessaire. Alors de quel changement parle-t-on ? Eh bien, le festival de la bande dessinée d'Angoulême a démarré en 1974. C'était une petite édition qui se déroulait sur une des places d'Angoulême avec une croissance qui est devenue extrêmement importante. Et donc, la ville maintenant entière, au moment du festival, présente différentes facettes de la bande dessinée et le festival lui-même est géré maintenant par une société qui s'appelle 9e Art+, plus. Alors il y a un appel d'offres qui est fait il y a eu des problèmes avec cette société, on en avait parlé sur cette antenne, et notamment il y a une action en justice qui a été engagée contre 9e Art Plus, accusée de harcèlement et de viol, d'un management toxique. Et donc beaucoup d'auteurs demandent à ce qu'il y ait une meilleure considération de leur part déjà, et puis que ces choses soient réglées, et posent la question, est-ce qu'on peut donner purement et simplement pour 9 ans supplémentaires une concession d'exploitation du Festival d'Angoulême dans ces conditions ? Anouk Ricard a pris parti, ainsi qu'un très grand nombre d'auteurs de bandes dessinées qui ont signé une pétition, ils sont 2500, qui affirment ne pas vouloir aller au Festival d'Angoulême si 9e Art Plus est reconduit dans sa gestion du festival. À suivre donc, alors j'ai un peu exagéré, c'est pas 2500 mais 2250. Donc, à suivre donc pour voir comment va se décider l'avenir du Festival d'Angoulême. En tout cas, moi je me joins aux auteurs, si jamais eh bien, rien ne change, je n'irai plus à Angoulême et j'irai faire d'autres festivals, comme par exemple qui débule à Saint-Malo. Nouvelle virgule. Alors, je voudrais encadrer cet entretien avec Stanislas et avec son livre La fin du monde par deux livres. Et je voudrais commencer donc par Sodade de Vincent Turan. Alors, c'est un livre qui est étonnant, surprenant, qui change des approches habituelles et qui recèle des qualités très fortes. Je précise. D'abord le récit. L'amour du 7e art les avait réunis quand ils étaient jeunes cinéastes. L'échec d'un film les a stoppés. Désormais mariés et femmes, Alma et Rio tiennent un cinéma dans une petite station balnéaire et tentent d'oublier leur rêve de carrière brisée. Non loin de là, deux flics véreux et deux voyous notoires se préparent au braquage d'une banque. Le casse a lieu, mais rien ne se passe comme prévu. Les malfaiteurs en cavale se réfugient dans le cinéma d'Alma et Rio. Dans l'obscurité de la salle noire, le désir de vengeance des uns et les regrets des autres se télescopent dans un cocktail explosif. Donc nous sommes sur une intrigue policière, mais pas seulement. Il y a donc le parcours d'Alma et Rio avec cette reprise de salle pour pallier la frustration de leur carrière de réalisateur brisée. Et donc, on va avoir une narration croisée, des narrations croisées qui vont se développer tout au long de ce récit. Il y a donc la partie cinéma, à proprement parler, avec ce couple de personnages, donc Alma, la réalisatrice, et son mari, Rio. Et puis il y a aussi, pour le cinéma, une ouvreuse, Luz Escardo, qui était le barman. On a personnages de flics ripoux associés à deux truands. On ne peut pas dire que ça soit des foudres de guerre. Et en fait, ces personnages sans envergure, ces deux escrocs sans envergure, ont aussi des personnalités très différentes. Et c'est une des premières forces du récit de Vincent Turane, c'est d'avoir caractérisé les personnages avec une grande amplitude. On n'est pas sur des personnalités qui pourraient se superposer ou s'interchanger, mais il y a vraiment un travail sur la psychologie, la personnalité de chacun, et ce télescopage entre les deux récits va être plus intense et accentué par cette caractérisation précise des personnages. Et puis, dans cette partie, par exemple, par rapport au cinéma, il y a un film qui est mis en avant, c'est Un amour du 7e art qui va apparaître à travers la projection du film Sodade, qui donne donc le nom au livre et qui doit faire l'ouverture de cette salle de cinéma. Sodade, en fait, si on regarde sur Internet, il y a un film qui s'intitule Sodade, mais c'est un film japonais de 2011, alors que là, le film évoqué est un film beaucoup plus ancien, un film italien, dont à chaque fois, Vincent Turane va pas donner le mot en entier, va y avoir toujours un bout de d'aventure de cinéma où on verra pas le nom du réalisateur complètement. Et donc, il y a un simulacre qui est organisé par Vincent Turane pour donner l'illusion de ce film où on va avoir donc des scènes qui vont être reproduites, présentées pour montrer la puissance du cinéma, comment il a marqué des parcours, que ça soit chez Alma et Rio ou bien chez ces petits escrocs sans envergure, mais qui montrent une vraie sensibilité pour ce film. Il y a donc un rythme qui est vraiment donné par le récit. Et la partie dessin, eh bien, elle est importante et intéressante parce que Vincent Turane a un parcours assez particulier. Il est diplômé d'histoire, il donne des cours d'histoire de l'image narrative. Donc, on peut imaginer que ses choix graphiques sont pleinement assumés. Et c'est le cas. Il n'y a pas une volonté d'esbroufe, une volonté d'avoir un réalisme appuyé d'une très grande élégance qui montre une virtuosité certaine. Mais il y a au contraire une volonté d'avoir un trait qui va porter les personnalités, qui va porter les émotions, qui va aussi caractériser les différents personnages. Ils ne sont pas basés sur les mêmes moules, aussi bien dans le regard des hommes que dans ceux des femmes ou dans leur visage. On a des morphologies très différentes. Et le trait de Vincent Turane est un trait qui est chargé, qui est composé de plusieurs traits, qui n'est pas une ligne qui va être là dans le contour. Il peut le faire, mais il y a aussi cette façon de compléter le trait par d'autres petits traits, par les scories d'un trait de pinceau ou de feutre un peu appuyé et qui ne va pas faire un trait d'une grande uniformité. Dans ce travail de dessin, il y a une cohérence sur l'ensemble qui fait que, une fois qu'on est dans ce parti pris, dans celui de l'auteur, dans son approche graphique, on va complètement se mouvoir dans ce récit, se laisser emporter dans cette aventure où le septième art est très présent et où l'intensité va être constante tout au long du récit pour, comme dans beaucoup de récits policiers, à suspense, où il y a une sorte de paroxysme final qui tient pleinement ses promesses. Un dessin qui affirme toute sa personnalité, qui ressemble à aucun autre, et c'est la grande force de l'écriture dessinée, c'est de pouvoir porter une personnalité, celle de son auteur ou de son autrice, et ainsi donner à cette écriture dessinée une grande puissance de représentation. Sodade de Vincent Turan est publié par les éditions Sarbacane. Les 176 pages de ce récit sont au prix de 25 euros. Le livre a été imprimé en France et Vincent Turan a donc fait la totalité de ce livre. Écriture, dessin, couleur, lettrage. Musique.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Le terme de ligne claire évoque aujourd'hui les suiveurs d'Hergé. A disparu leur pluralité, leur diversité, comme le montrait Bruno Le Signe dans Les héritiers d'Hergé en 1983. Stanislas est un des 6 cofondateurs de la maison d'édition de l'association. Il affirmait déjà ses différences avec Hergé. Avec La fin du monde, son dernier livre, Stanislas compose en 10 récits liés un monde où passé, présent et avenir sont conviés dans une singulière proximité. La boutique d'un brocanteur s'ouvre. Cette boutique, par-ci, par-là, changée de vie, elle va s'ouvrir sur d'infinis possibles. Une maison se construit par une simple accumulation. D'autres sont bousculées par les éléments ou apparaissent dans une ville fantasmée. Imaginé dans le passé. À chaque fois, nous sommes au plus près des personnages, de leurs amours, de leur sensualité, de leur nudité joyeuse et naturelle. La fin du monde, c'est aussi un hommage aux classiques. Hergé, bien sûr, mais aussi Saint-Augan. Stanislas reprend le trait légèrement tremblé du Lotus bleu ou de Zig et Puce. L'auteur s'approprie le souci d'une lisibilité maximale, toujours associée à une économie de moyens. Le trait de Stanislas est aussi chargé d'ironie, soulignant l'espace de liberté du dessin. Ces 10 récits s'écartent en permanence des attendus qui brouillent nos habitudes de lecteur, jouent avec le temps, créent des hommages inventifs et nous emmènent dans un futur incertain en pleine lumière. Nous sommes avec Stanislas pour qu'il nous fasse entrer dans sa boutique du Par-ci Par-là. Bonjour Stanislas.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, vous êtes auteur de bande dessinée, illustrateur, vous travaillez aussi pour des annonceurs. Votre rapport à la bande dessinée pourtant est vital, certainement, notamment avec la création de la maison d'édition de l'association, cette co-création. Alors, pourquoi ces récits en bande dessinée? Qu'est-ce que vous apporte cette narration en images?
La bande dessinée, c'est avant tout mon métier principal. Je suis amené à faire des boulots d'illustration pour la presse et l'édition, surtout pour des raisons alimentaires. Mais mon vrai métier, c'est la bande dessinée. Donc j'ai toujours aimé ce travail, comme bien souvent les dessinateurs de bande dessinée, en l'ayant d'abord lu enfant et puis dans ma jeunesse. J'ai été vraiment un passionné par la bande dessinée et j'en ai consommé énormément. En évoluant avec l'âge, mes goûts évidemment ont évolué. Et c'est vrai que je suis parti avec les aventures de Tintin comme beaucoup d'amateurs de bande dessinée et j'en suis toujours un très très grand passionné. Mais après, j'ai découvert le journal de Spirou, et puis lors de mes études artistiques aux arts appliqués, j'ai découvert Metal Holland à suivre, et tout ce qui se faisait ailleurs, en Amérique, au Japon, etc. Et puis j'ai en même temps rencontré des copains qui eux aussi étaient passionnés par la bande dessinée et voulaient en faire leur métier. Et donc ensemble, on a créé des petits fanzines, ça a été très très important pour mon travail, cette période de fanzina, et c'est là que j'ai rencontré bon nombre des futurs co-créateurs de l'association. Et voilà, quoi, et en créant ces fanzines, en s'essayant à faire de la bande dessinée, on racontait ce qu'on avait envie de raconter, et on était tous nourris, enfin en tous les cas, moi j'étais nourri par mes lectures d'enfants et de jeunesse, et qui se mélangeaient entre Tintin, Moebius, Tardi et Saint-Augan. Et voilà, et j'ai tout naturellement voulu m'exprimer et raconter à mon tour mes histoires.
Stanislas, comment s'est mis en place cette fin du monde puisque c'est un ensemble d'histoires, de 10 histoires, mais elles ont tout un lien entre elles. Comment pensez-vous votre livre et son organisation?
Oui, alors, il y a un petit clin d'œil un petit peu perfide de ma part, puisque mon premier livre, édité par Futuropolis en 1986, ça remonte à 40 ans déjà, s'appelait La Grande Course, et c'était un petit peu ce que je m'apprêtais à faire, cette grande course dans la carrière, dans ce métier difficile de la bande dessinée. Et puis, là, aujourd'hui, mon dernier livre s'appelle La fin du monde, comme si ça pourrait presque être, peut-être pas encore, je l'espère, la fin du monde en tant que tel, mais la fin d'un monde, en tout cas, la fin de cette période que j'ai beaucoup aimée de la bande dessinée et qui aujourd'hui évolue beaucoup dans un sens qui n'est pas inintéressant mais qui m'intéresse beaucoup moins. Alors voilà, ça aurait été la fin d'une époque, la fin d'un monde, mais bon, de façon ironique, hein, parce qu'encore une fois, il y a des tas de choses certainement intéressantes aujourd'hui, mais c'est plus la... Je ne vois pas la bande dessinée de la même manière. Voilà, moi je continue à faire mon travail à l'encre de Chine sur du papier. Enfin bon, j'ai des bases très classiques et j'ai bien du mal à m'en défaire. Et aujourd'hui, on voit arriver sur le marché beaucoup de dessinateurs jeunes et enthousiastes et très virtuoses qui ont appris ce métier, alors que moi, de mon temps, ça n'était pas possible, il n'y avait pas d'école de bande dessinée, c'était même mal vu dans les écoles d'art dans lesquelles j'étais. Et donc aujourd'hui, ils ont tous appris ce métier et ils l'ont presque trop bien appris, quoi. Je trouve que ils sont trop virtuoses et ils ont presque des tics de fabrication qui me gênent un petit peu. Je n'arrive pas à trouver les choses, ces bandes dessinées intéressantes. Mais il y a quand même une petite production de bandes dessinées indépendantes qui font des choses toujours très intéressantes aujourd'hui. Alors pour en revenir à la fin du monde de mon livre, effectivement tout tourne autour de cette petite boutique un peu magique qui s'appelle Par-ci Par-là. Sur la devanture d'ailleurs est inscrit un petit peu le slogan de la boutique, c'est changer de vie. Et ça a toujours été un petit peu un leitmotiv de mon œuvre. Changer de vie, en tous les cas, être libre de faire ce que l'on avait envie de faire sans contrainte d'aucune sorte, comme je l'ai été modestement dans ma vie en ayant embrassé cette carrière de dessinateur de bande dessinée, alors que c'était pas évident de pouvoir se lancer là-dedans, alors que beaucoup de gens disaient que c'était impossible et qu'on ne pouvait pas vivre avec ce métier-là. Mais je voulais le faire, je l'ai fait. Bon, voilà. Alors donc, dans cette boutique, les personnages rentrent, et puis à l'intérieur, tout est possible, il y a tout un capharnaüm de tout un tas de choses. Et en général, le personnage en ressort, transformé d'une manière ou d'une autre, plus ou moins volontairement. Donc c'était un petit peu l'accroche du système de ce livre qui me permettait de réunir plusieurs petites histoires. Ça, je trouve ça très plus confortable et plus pratique de recueillir un nombre de petites histoires, de petites nouvelles. Ça me permet de passer d'une histoire à l'autre et de même changer de style, changer de genre, d'histoire, passer du noir à la couleur, au trait, ou avec du lavis, enfin, une histoire de 3 pages ou une histoire de 8 pages, il y a là aussi une certaine liberté.
Alors Stanislas, voilà. Il y a une volonté aussi de ne pas être catastrophiste. Oui, il y a le terme « fin du monde » qui est exprimé. Oui. Il y a des moments, des évocations. Et pourtant, vous réussissez à donner aussi une tension dans cet avenir qui n'est pas qui est pas simple. En tout cas.
Oui, l'avenir n'est pas simple, ça on le sait tous. Bon, moi j'ai des enfants et je pense à leur avenir. Mais j'ai toujours été optimiste. C'est ma nature. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Oui, ça va être difficile, mais après tout, ce sera à vous de jouer. Et il y a certainement des choses à faire pour s'en sortir. Et puis voilà, faudra s'adapter, il faudra trouver des solutions. Mais il y a toujours de bonnes raisons d'y trouver du plaisir et de l'intérêt dans ce monde qui est difficile. Et je leur rappelle aussi que le monde n'a pas été toujours facile dans le passé non plus. Hein, il y a quand même eu des périodes abominables avec des grandes guerres, des pestes, des épidémies de peste, des massacres, la Shoah, enfin des tas de choses absolument abominables qui appartiennent au passé. Donc l'avenir est peut-être anxiogène, mais le passé n'a pas été terrible lui non plus. Et pourtant, on vit, on crée des choses, on fait des enfants, on fait de l'art, on s'intéresse à la musique, au dessin, à l'architecture, à tout un tas de choses, à la politique. On admire toujours la nature qui est toujours la plus forte, hein, puisque si un jour fin du monde il y a, je crois que ce sera la fin de notre monde, de l'humanité, mais certainement pas de la terre et de la nature qui s'en sortira toujours. Mais mon album n'est pas axé uniquement sur ces prévisions pessimistes. J'ai surtout voulu faire des petites histoires très libres. Je constate que ça parle beaucoup ce sont souvent des petites histoires d'amour entre deux êtres, un homme, une femme. C'est toujours, ça se passe toujours autour de ce petit, de ce sentiment universel et intemporel. Et voilà, c'est pas bon. La dernière histoire s'appelle La fin du monde. là je me suis bien amusé en m'inspirant de l'univers d'Hergé avec ses personnages de Josette Joko que j'aime beaucoup personnellement. Et je m'en suis inspiré aussi bien de cet univers-là que de celui de Saint-Augan avec Ziggy Puce. Donc une petite bande dessinée un peu rétro comme ça, avec de la science-fiction rétro elle aussi. Et on voit ces personnages qui quittent la Terre pour aller s'installer ailleurs à l'abri. Mais ça, je laisse le lecteur découvrir cette histoire. Mais donc elle n'est pas non plus dramatique.
Alors, je voulais parler de du récit L'instinct du nid, où vous évoquiez les jeunes auteurs et la nouvelle bande dessinée tout à l'heure. Et là, en quelques grandes images, on a une image par page. Il y a la construction d'une maison de façon, là aussi, très libre. Et ça montre toute l'inventivité de cette narration en image, avec notamment ce blanc, ce fond blanc, qui exprime aussi le vide et qui va être rempli par cette maison qui se construit sous nos yeux en quelques pages. Il y a donc, Stanislas, pour vous, des possibilités narratives qui sont toujours à inventer.
Ça c'est certain. La bande dessinée, c'est raconter une histoire avec des dessins, mais c'est tout, quoi. On n'est pas obligé de rentrer dans des cases, on n'est pas obligé de suivre telle ou telle règle imposée par nos anciens. C'est vraiment le seul impératif, c'est raconter une histoire de façon à ce qu'elle soit lisible et compréhensible par le lecteur. Maintenant, on peut partir dans des tas de choses très différentes. Vous parliez effectivement de cette bande dessinée où il n'y a pas de cases, mais un amoncellement de cubes qui pourrait remplacer les cases. Enfin, c'est tout un jeu autour de l'image et du volume. Mais il y a aussi une page à la fin où je me suis amusé, une des pages du personnage qui s'appelle le Météore, qui est en fait un retour du galérien, un de mes premiers personnages, où là je m'amuse aussi à faire une lecture en Z, alors que normalement on fait toujours une lecture de haut en bas et de gauche à droite. Là je me suis amusé à faire une lecture en Z. Pourquoi pas, parce que ça peut être possible s'il y a une raison pour que cela soit possible. Je me souviens dans un perroquet des Batignolles que j'ai dessiné, le premier tome notamment, les protagonistes le personnage principal doit partir en Bretagne. Donc il prend le train à la gare Montparnasse et il part en Bretagne. Et donc j'ai fait une case avec le TGV. Bon, eh bien, pour moi, j'ai toujours la carte dans la tête, la Bretagne c'est à l'ouest, donc c'est à gauche, quoi. Et donc je ne pouvais pas faire un TGV circulant de gauche à droite, comme dans le sens de la lecture. Donc il a fallu que je fasse une case où on voit le TGV circulant de droite à gauche, dans le sens inverse de la lecture. Mais c'était une logique qui s'imposait, moi, plus que la logique du sens de la lecture traditionnelle. Et ça fonctionne, pourtant. Je me suis toujours amusé à sortir un peu à me libérer de toutes ces logiques, de toutes ces règles, pourvu que le message soit compréhensible.
Stanislas, je vous propose une pause musicale. On se retrouve donc dans quelques minutes et puis on parlera un peu plus précisément de votre dessin. À tout de suite.
Très bien.
After this love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye.
matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close, night and day. Because love is the saddest thing when it goes away. Love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Stanislas à l'occasion de la sortie de son dernier livre, La fin du monde, paru à l'association. Stanislas, on parle beaucoup de lignes claires, mais vous avez un dessin qui est différent, qui est dans cette lisibilité qu'on peut attribuer aussi à la ligne claire, mais vous avez un dessin qui est plus irrégulier, qui est un peu tremblé, qui est très vivant. Alors, comment se fait votre approche graphique pour chacun des récits ? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'ensemble du livre, on a des dessins différents qui varient.
Oui, c'est vrai. Alors donc, ligne claire, moi, c'est, je ne me suis jamais revendiqué ligne claire. Hein. Ce sont les autres qui me cataloguent ligne claire. Moi, je fais mon dessin comme j'ai toujours voulu faire mon dessin, quoi. Mais il se trouve que ça évoque parfois la ligne claire, mais c'est pas un but pour moi. Moi, mon but, c'est de faire un dessin effectivement le plus lisible possible, avec une certaine économie de moyens. Je cite souvent des exemples dans d'autres domaines qui m'ont beaucoup influencé, comme dans l'architecture, par exemple, j'ai étudié pas mal ça aux arts appliqués, et notamment le Bauhaus et tous ces gens-là. Et la fameuse maxime d'Adolf Loos qui disait « l'ornement est un crime ». Et ça, c'est vraiment un truc que je revendique tout à fait. Tout comme dans la littérature, le travail de Georges Simenon, que j'aime particulièrement, où lui aussi, avec quelques mots, il réussissait à camper un personnage ou un décor ou une situation, et avec vraiment une grande simplicité, et pourtant, ces personnages existent, une profondeur et une intensité tout à fait remarquable. Donc voilà, sans et bien sûr Hergé dans la bande dessinée l'a lui aussi beaucoup fait.
Mais Stanislas,
c'est un peu moins vers la fin de sa carrière, oui. Où il était plus vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, tout seul à faire ses tintins, mais il y avait ses fameux studios et beaucoup de gens, beaucoup de petites mains l'aider à faire ses tintins, et je trouve que ces derniers tintins sont justement un peu trop chargés, un peu trop lourds, un peu moins, c'est le moins qu'on puisse dire, moins spontané et moins léger, moins beau que les tintins du milieu, quoi. Voilà. Donc oui, j'ai toujours poursuivi cette volonté de faire simple, tout en essayant de garder bien sûr une lisibilité et une émotion, et surtout le plus important dans le dessin, à attraper, et c'est ce après quoi je cours encore aujourd'hui, c'est la vie, en fait, avec un dessin très simple comme ça. C'est pas évident de d'animer des personnages de façon à ce qu'ils expriment le mouvement, la vie, le mouvement. C'est très très difficile. Et donc, je me suis aperçu que, au fil des ans, que un dessin trop retenu, trop léché, trop maîtrisé pouvait acquérir une certaine raideur, une certaine, voyez, un manque de vie, quoi. Il faut réussir à lâcher prise, à le laisser partir un peu. Et c'est surtout valable dans l'ancrage. Je crois que de plus en plus, je suis amené à faire des crayonnés assez poussés, très travaillés, surtout concernant les personnages et leurs mouvements. Mais l'ancrage, il faut que j'essaye de le faire le plus rapidement possible, enfin le plus lâche, le plus, je dirais presque, avec des défauts, des petites taches d'encre. Quand la plume accroche sur le papier, à une époque, ça me rendait dingue, il fallait que je refasse le trait, c'était infernal. Aujourd'hui, non, je laisse partir les petits défauts, les petites imperfections. Tout ça, ça fait partie de la vie et ça peut aider aussi un peu le dessin à respirer, à être plus vivant, plus émouvant.
Stanislas, dans vos dessins, il y a de l'ironie, aussi bien dans la façon de représenter, dans le récit lui-même, mais aussi dans le dessin, dans le trait, une façon de représenter les situations. Qu'est-ce que vous permet cette ironie, Stanislas ?
Déjà, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Hein. J'ai toujours pensé que... Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier. Il y a longtemps que des tas d'autres personnages en ont parlé. C'était quoi la phrase ? Vaut mieux... Enfin, il vaut mieux... faire un travail pas trop sérieux, mais sérieusement, que de faire sérieusement un travail pas intéressant, quoi. Enfin, je sais plus exactement dans quel sens c'était, mais c'est un travail qui me demande beaucoup de mal, hein, ça c'est sûr. Je suis dans la besogne, quoi. Je souffre à faire des dessins. Ça n'a jamais été facile. C'est toujours bon, au fil des ans, j'acquiers bien sûr une certaine habileté, c'est évident, mais plus j'acquiers de l'habileté, plus je pourrais a priori m'ennuyer à faire un dessin, parce que peut-être qu'il me faut une certaine bagarre avec mon dessin pour pouvoir trouver de l'intérêt à ce travail-là. C'est sûr qu'un dessin que je fais comme ça tout seul d'un seul coup, à la limite, je me dis, il y a quelque chose de pas normal. Enfin, bon, donc j'essaye d'aller toujours un peu plus loin dans une recherche d'une difficulté, quoi. Je vous parlais du mouvement tout à l'heure. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible, quoi. Donc, si j'acquiers une habileté, il faut que j'en profite pour faire des mouvements de plus en plus difficiles, des expressions de plus en plus difficiles, des choses de plus en plus difficiles. C'est comme ça que je procède pour avancer. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus.
Mais c'est très bien. Merci pour cette intimité de parole. Je voulais vous poser une question aussi sur les hommages que vous faites, qui sont aussi bien des clins d'œil et qui sont pas des hommages comme souvent on a l'habitude de les voir, où il y a vraiment... un point narratif qui va s'ajouter quand vous évoquez Hergé ou Saint-Augan, par exemple, qui est un des personnages d'un récit. Et puis il y a Menu, il y a Jean-Christophe Menu, un autre cofondateur de l'association, et il y a une histoire avec Jean-Christophe Menu. Là aussi, quelle est l'importance pour vous de ce récit peu particulier ?
Qu'il avait tout à fait sa place dans la construction de ce livre, dans la mesure où effectivement je rends hommage à Saint-Augan et Hergé, mes deux principales sources d'inspiration, en les introduisant dans cette bande dessinée sous forme de personnages. On voit Saint-Augan qui je mets en scène Alain Saint-Augan, je mets en scène un de ses personnages qui est le pingouin Alfred, qui parle dans la bande dessinée en danois, puisqu'il a été trouvé au Groenland, sur une banquise. et je mets en scène Hergé sous forme de robot avec une tête dans un bocal. C'est assez effrayant, mais enfin bon, c'est aussi une façon de j'allais dire, de bah, non pas de me moquer d'Hergé, hein, certainement pas, j'ai jamais eu cette intention, au contraire. Quand on m'a proposé de faire les aventures d'Hergé, je l'ai accepté, surtout justement pour défendre un petit peu le personnage qui était pas mal attaqué à l'époque, je me souviens. Et donc non, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour son œuvre. Et donc, quant à Jean-Christophe Menu, effectivement, c'est un des cofondateurs de l'association. C'était notre chef, hein, à l'association. C'était lui l'instigateur, c'était lui l'initiateur, c'était lui l'âme de l'association, hein, notre chef, quoi. Et c'était aussi lui que j'ai rencontré en premier. On était tout jeunes, on avait 18, 20 ans, même pas. Et moi, j'étais un ancien lecteur de Tintin, du journal de Spirou, j'étais aux arts appliqués, je tournais un peu en rond parce que je voulais faire de la bande dessinée, je ne savais pas trop comment faire et que faire. J'ai été dans ma période fanzine et puis je rencontre ce personnage qui était Jean-Christophe Menu, qui était lui à la fac d'art plastique de Saint-Charles à Paris. Et je suis tombé sur un gars qui était comme moi, fan de Tintin, du journal de Spirou, etc. Mais qui avait une espèce de... une culture et une clairvoyance, il était une érudition en bien des domaines, et il était, oui, très brillant, et ça se sentait, ça se voyait. J'ai trouvé formidable qu'un gars de cette trempe puisse être passionné par la bande dessinée et vouloir consacrer sa vie à la bande dessinée, ça m'a rassuré. Je me suis dit, il y a des gens formidables dans ce métier-là, et ça donne envie de poursuivre. Et d'ailleurs, lui, depuis, il est devenu docteur en bande dessinée, ce qui n'est pas rien. Et il a toujours été, il est toujours tout à fait passionnant, tout en étant libre et inclassable, ce qui me déplaît pas.
Merci beaucoup Stanislas. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, donc La fin du monde, qui est publié par l'association dont vous êtes le cofondateur. Les 96 pages de cette histoire, je n'ai plus le prix, je vais vous dire ça tout de suite.
Je dois l'avoir moi aussi, voilà. 19 euros.
Voilà, 19 euros. Et très bonne continuation, et en tout cas,
merci. C'est pas le travail qui manque, et puis je vous remercie de m'avoir invité.
À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
When I look back on all the roads we've traveled on, it makes me smile. Although I do tend to forget your Katie nights after a while. Another dream begins to fray, so my love, another day. Another sun sets in the blue, oh my love, what can we do? To stop it all. When I look back on all the tears that you've shed, I wonder why. You're you can't consider all the years that lie ahead of you and I. Another dream begins to fray. So my lover, another day. Another sunset's in blue.
Je voudrais terminer avec le Café de la Gare, maison fondée en 1969. Voilà ce que dit la quatrième de couverture. 1968, Paris s'embrase et une bande de fous furieux invente le théâtre libre. Romain Bouteille, et je cite, « Nous, on en avait un peu marre de tout cela, des cabarets où le bonhomme était tout seul, où il n'y avait pas de troupe. C'est pour ça qu'en 1968, il devenait important pour Coluche et moi de faire un théâtre qui n'avait pas existé, un théâtre avec l'interdiction d'interdire. » Les auteurs vont insister et en introduction, on peut lire. Nous, ce qu'on voulait, c'était trouver un job qui permette de se lever à n'importe quelle heure et ne suppose ni diplôme, ni réel travail, ni obéissance. L'intérêt et la force du Café de la Gare, si je dois dire, ce serait l'absence de fondateur. Un fondateur choisit ceux qui vont travailler avec lui. Il apporte une discipline précise. Nous, on n'a pas choisi. Pas de discipline non plus. Tout est arrivé comme une sorte d'accident. Un théâtre qui n'existait pas. Ce projet est porté par trois auteurs. Paul Vermersch, qui est dramaturge, et Thibaut Vermot, qui est scénariste et romancier, également dialoguiste de cette histoire. Et l'idée et la mise en image, le dessin, est porté par Inès Polosson. Alors, c'est un projet qui va, un livre qui va déjà exister par la force de ses partis pris. Il y a un choix de ne pas faire une sorte d'histoire chronologique du Café de la Gare, mais vraiment de rendre compte de ce moment de création qui a fait que on a eu un théâtre qui a marqué et définitivement marqué la création théâtrale, mais pas seulement, aussi tous les arts narratifs. Alors, ça démarre de façon plutôt simple. Hein. On a Coluche qui n'a pas forcément de boulot et qui va être un peu aidé par quelqu'un qui lui propose qui l'aide à prendre un job de serveur et qui va très vite comprendre que ça ne marche pas, c'est pas ce qu'il lui faut, et il essaye de faire quelques interventions. On sent qu'il y a ce goût de la scène de sorte de one man show, c'est encore très tôt, mais en tout cas d'utiliser la parole pour être incisif, corrosif même. Et il va y avoir cette rencontre dans ce café chez Thérèse où il va rencontrer d'autres auteurs comme Romain Bouteille et Henri Guibet. Et là va se tirer ce fil de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer radicalement l'approche pour être dans cette résonance avec ce contexte de mai 68. Il y a un groupe qui va se constituer, il est rappelé en quatrième de couverture également, donc il y a Romain Bouteille, Sota, qui a été sa première épouse, Gégé, qui sera là, Claude, Catherine, qui va aussi avoir un rôle important dans ce récit, Jean-Mi, Miu Miu, qui était donc au Café de la Gare aussi, Coluche, et Patrick, qui est Patrick Devers. La force de ce Café de la Gare est portée par cette relation texte-image très intense, bien sûr le découpage, la construction du scénario, mais parce que les dialogues vont être plutôt atypiques. Dans cette volonté de construire un théâtre inédit, un théâtre libre, il y a le pendant de ce regard sur la société qui est très exigeant, très critique, et qui va apparaître dans les dialogues mêmes, mais pas de façon caricaturale, avec une sorte de contestation facile, mais vraiment dans cette quête d'autre chose, d'une identité qui va se construire en opposition aussi à la société qui était proposée à l'époque. Et là, il y a cette force du dialogue qui va arriver, qui va être permanent tout au long de ce récit, aussi bien dans les échanges entre une, deux ou trois personnes qui va faire partie de l'aventure, ou bien dans ces discussions de groupe, dans la façon dont on va accueillir le public, dont vont se passer les premières représentations avec les réactions, les moments où Coluche n'arrive pas à y trouver son compte, est très critique vis-à-vis de ce petit groupe, et puis finalement il ira cavalier seul. Romain Bouteille, qui est un auteur d'un très grand talent qu'on connaît et qu'on reconnaît peut-être pas suffisamment, mais dans ses propos, cette façon de formuler les choses, cette facilité à écrire des alexandrins, il a écrit de très nombreuses pièces, comme par exemple Un Don Juan qui avait été présenté dans un petit théâtre de Montpellier, tout en alexandrin, qui était une sorte de relecture remarquable. Et cette capacité d'écriture apparaît pleinement dans ce livre et dans les propos de Romain Bouteille. Puis il y a le dessin d'Inès Polosson. Elle a choisi un dessin très fin, précis. Il n'y a pas d'hésitation, il y a une volonté de poser les personnages avec une sorte d'espace dans le dessin lui-même et une volonté de chercher la ressemblance, de la capter aussi dans les regards. Alors, par exemple, Romain Bouteille a des lunettes, Coluche aussi, et la façon dont elle a dessiné les yeux à travers les lunettes est d'une grande qualité, parce qu'ils sont là, ils sont aussi dans leur regard lui-même. Une attention au décor, mais sans s'y perdre, absolument pas. C'est vraiment la troupe, les personnages, les hommes et les femmes qui la composent, qui sont vraiment au centre de cette bande dessinée. Inès Polosson n'hésite pas à se rapprocher. Elle utilise un gros frayer qui permet d'avoir une très grande régularité dans la mise en scène, comme l'ont fait beaucoup de grands classiques, style Hergé, Maurice ou Franquin. Et il y a donc dans cette régularité une variation, une amplitude du cadrage et de la mise en image qui fonctionne parfaitement. On sent les fragilités, on sent les exigences, on sent les déceptions, on sent la puissance de la création, aussi bien chez Romain Bouteille, chez Sota, qui a été réalisatrice, qui a réalisé par exemple le graphique de Boscope, chez Henri Guibet, qui a été un acteur qui a marqué de nombreux films, et puis celle de Patrick Devers, qui était moins, qui n'était pas encore blessé comme il a pu l'être par la suite, et puis celle de Coluche, qui va vraiment s'affirmer. Miu Miu est un peu plus en arrière-plan, mais en tout cas, tous composent magnifiquement cette aventure. Café de la Gare de Paul Vermersch pour la partie scénario, de Thibaut Vermeau pour la partie dialogue, d'Inès Paulesson pour la partie dessin, pour l'idée, et pour la mise en couleur et le lettrage. C'est publié par les éditions Sarbacane. Le livre fait 160 pages. Il est au prix de 24 euros. Et c'est un livre qui a été imprimé en France, Sarbacane étant un éditeur militant. Merci Fabien pour cette technique. Je suis légèrement en retard. On se retrouve la semaine prochaine avec Manon Debay pour son livre Les filles normales. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.